petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
Dans le Sunday Times, le Sunday Telegraph, soyons précis, du 15 mai de cette année, Boris Johnson, actuel Premier ministre britannique, dénonce la mise en cause de l'indépendance du Royaume-Uni par l'Union européenne. Déclaration pour le moins hasardeuse. Je cite Boris Johnson. Napoléon, Hitler, plusieurs personnes ont essayé de le faire et cela s'est terminé de manière tragique. L'Union européenne est une autre tentative avec des méthodes différentes. Fin de citation. Ce populisme à la Donald Trump, ça y ressemble vraiment, est évidemment scandaleux dans la mesure fort évidente où l'Union européenne n'a jamais eu la moindre velléité de considérer l'un de ses membres comme un ennemi. Mais je crois que cette petite phrase est un des marqueurs des 51,9% de Britanniques qui, le 23 juin 2016, ont voté le Brexit, même si aucun Anglais ne pense vraiment à une telle hostilité. Vous l'avez compris, je vais vous parler du Brexit, mais sans parler des péripéties inouïes des négociations, ni du ridicule vaudeville du Parlement de Londres. La jungle de Calais, on s'en souvient, a mis tragiquement en évidence, dès le début d'ailleurs des années 2000, le problème d'immigration massive en provenance du Moyen-Orient en guerre et à destination de l'Angleterre. Près de 10 000 migrants vont se concentrer dans la lande de Calais dans des conditions, on le sait, humanitaires effroyables. Pourquoi tous ces migrants veulent-ils aller en Grande-Bretagne ? La cause la plus convaincante est qu'ils parlent plus ou moins anglais, mais pas du tout français, ni d'autres langues européennes. Or, d'après la revue Ethnologue en 2018, l'anglais est la langue la plus parlée dans le monde avant la principale langue chinoise qu'est le mandarin. Alors, l'Union européenne n'y est pour rien, mais les Anglais se sentent envahis par des migrants qui passent par l'Europe. En revanche, dans les mêmes années 2000, 5,6 millions, c'est énorme, d'immigrés arrivent en Grande-Bretagne et en provenance là, en l'occurrence, de l'Est de l'Europe. Et la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne oblige le Royaume-Uni à les accepter. Ce sont des Européens, eux aussi, et des Européens parlant plus ou moins l'anglais. Bref, la linguistique domine les flux migratoires et, in fine, la politique des États. Alors, à l'inverse de la France qui adopte une politique d'intégration plus ou moins réussie d'ailleurs, d'intégration des immigrés, la Grande-Bretagne, qui en accueille beaucoup, beaucoup plus, s'engage dans le communautarisme qu'elle regrette d'ailleurs depuis quelques années. Ce multiculturalisme devient ingérable en Angleterre. Et le Royaume-Uni, disons-le, a un autre attrait, c'est le plein emploi, qui n'est pas le cas de la France. Mais attention, le plein emploi grâce à de très faibles, très très faibles salaires. Pourquoi la langue anglaise est-elle à ce point dominante? Le français arrive en sixième position, mais très loin derrière les premiers, c'est-à-dire les anglais. C'est que l'Angleterre va dominer le monde dès le XVIIIe siècle, en Amérique du Nord par exemple. Les USA vont conquérir, c'est vrai, leur indépendance, mais ils vont garder l'anglais comme langue officielle, bien que au départ minoritaire cette langue. Au XIXe siècle, la Grande-Bretagne confirme son leadership mondial. La City de Londres devient la première place financière sous le règne d'ailleurs de la célèbre reine Victoria, qui a régné de 1837 à 1901, c'est énorme. Dans ce même règne, naissent la révolution industrielle et le capitalisme moderne. De même, la démocratie est née en Angleterre dès le XIVe siècle, avec la lente mais sûre progression des pouvoirs du Parlement. La Grande-Bretagne victorienne consolide ses dominations, ou sa domination, sur tous les continents. Enfin, dans son histoire moderne et la succession des guerres contemporaines, l'Angleterre n'a jamais eu à se rendre. Elle n'a jamais été occupée. Elle ne connaît pas la reddition. C'est l'exception européenne. Avec tout ce passé récent, la Grande-Bretagne n'a pas la culture d'un pays prêt à abandonner une part de sa souveraineté, même si elle prend le risque d'un étiolement économique et à terme, disons-le, une perte totale de souveraineté devant les superpuissances américaines, chinoises et européennes. Mais pour l'instant, le Royaume-Uni a l'illusion d'être resté une superpuissance par le biais du Commonwealth. Il est vrai que ce n'est pas rien, le Commonwealth. Et les Français n'ont guère connaissance de cet aspect. Sauf en Inde, et sans doute aussi au Moyen-Orient, on le paye aujourd'hui, la Grande-Bretagne a réussi sa décolonisation. Elle entretient une alliance politique, économique et culturelle avec des États d'Amérique, d'Afrique et d'Océanie. Cette alliance, je viens de le dire, s'appelle le Commonwealth. Sait-on chez nous, en France, que ce Commonwealth comprend, je devrais poser la question sous forme de devinette, mais on va aller plus vite, comprend, tenez-vous bien, 53 États, 53 étoiles, soit plus du quart du nombre des États dans le monde. Bien plus, parmi ces 53 États qui font partie du Commonwealth, 16, sans compter la Grande-Bretagne, 16 ont la reine Élisabeth II d'Angleterre comme chef d'État officiellement, parmi lesquels le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. La Grande-Bretagne est un pays développé, mais très bizarrement, ça aussi c'est assez unique, c'est même unique, sans constitution écrite pour la réguler en interne. En revanche, le Commonwealth est régi par des accords écrits. Cependant, les 53 pays de cette alliance mènent chacun des politiques très indépendantes et l'influence britannique est assez limitée. Choisir le Commonwealth politique plutôt que l'Union européenne n'est pas une alternative crédible, vraisemblable. Choisir des liens étroits avec les cousins d'Amérique, les USA, est tout aussi illusoire. Obama leur avait dit explicitement, ça n'avait pas plu à tout le monde d'ailleurs en Angleterre, de rester dans l'Union européenne. Trump a dit l'inverse. Il est favorable au Brexit, mais a dit aussi qu'il ne fallait pas compter sur les États-Unis pour plus ou moins remplacer l'Union européenne aux côtés des Britanniques. Tout ce contexte historique et géopolitique ne date pas d'aujourd'hui et c'est pourquoi le Royaume-Uni n'a adhéré que du bout des lèvres à l'Union européenne en 1973. Elle n'a pas voulu de la convention de Schengen, sur la gestion des frontières extérieures de l'Union européenne, convention qui s'est élaborée entre 1985 et 1990, elle a refusé d'adopter l'euro et ne voulait pas d'une union fiscale qui était plus ou moins en train d'être négociée. Certains se demandent, alors c'est peut-être exagéré, mais se demandent si on peut parler de sortie de l'Union européenne alors que le Royaume-Uni n'y est jamais vraiment entré. Et s'agissant de sortie, le Brexit menace l'Angleterre, et oui, c'est le retour de bâton ça, menace l'Angleterre d'une sortie de l'Écosse du Royaume-Uni. L'Écosse réclame un nouveau référendum d'indépendance, d'autant plus que les Écossais sont majoritairement favorables à un maintien dans l'Union européenne. Quant à l'Irlande, le Brexit la menace d'un retour à la guerre civile au nord qui est britannique, car le sud reste dans l'Union européenne, ce qui oblige à rétablir une frontière avec le nord. Vous le savez, c'est cette question irlandaise que l'accord éventuel entre l'Union européenne et le Royaume-Uni trouve sa principale pierre d'achoppement. Les Anglais s'aperçoivent que déconstruire est aussi difficile que construire, et que quand on découpe, eh bien, tout s'effiloche. Les sécessions se multiplient avec le repliement des nations sur elles-mêmes. Tchécoslovaquie, il y a la Tchéquie, la Slovaquie, Yougoslavie, il y a 6, 7 ou 8 États qui ont éclaté, Catalogne, Brexit, Écosse. On se plaint d'une France trop jacobine, mais ça peut être là, en la circonstance. Elle a quelque chose de bon, cette France jacobine, en cette période d'éclatement des États. Tous les autres pays d'Europe, et même du monde, sont des fédérations ou assimilées. Seule la France est d'une seule pièce. Il y a bien des régions, mais il n'y a pas de ministre de la Justice en Occitanie. Nous résistons mieux aux forces centrifuges qui soufflent sur la planète. En revanche, un point très positif et presque inattendu de presque tout le monde, y compris des Britanniques. Face au Brexit et malgré les nationalismes naissants en Europe, les 27 sont restés absolument unis et sans faille. Et aucun autre pays de l'Union européenne ne fait désormais mine de vouloir quitter l'Union. Tout ne se délite pas.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.